Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans 30 minutes, le journal de Tumulte avec Guy et Nico, nous recevrons Frédéric Lépinet, auteur du livre La Voix du Nord, Histoire secrète, paru aux éditions Les Lumières de Lille. Frédéric Lépinet, ancien journaliste à La Voix du Nord, retrace 60 ans de l'histoire d'un des principaux groupes de presse français. C'est le contenu de ce Tumulte numéro 849. Jean au micro, salut. Le journal de Tumulte, c'est dans 30 minutes, mais d'ici là, 30 minutes de musique tumultueuse avec Claude. Tumulte sur Radio PFM 99.9, quatrième tumulte du mois. J'espère un rendez-vous qui va devenir habituel avec Claude. Salut Claude.
Salut.
Alors qu'est-ce que tu nous as proposé? Bah déjà un premier morceau qu'on vient d'entendre.
Voilà, un premier morceau donc qui donne un peu le ton de ce qu'on va écouter aujourd'hui, à savoir des musiques qui vont nous évoquer le cinéma, quoi, autour du cinéma. À mesure, on a beaucoup parlé de cinéma ces temps-ci à Arras. Et on va encore en parler, puisqu'il y a un cinéma qui va bientôt ouvrir aussi, qu'on attend depuis quelques mois, mais bon, apparemment, ça serait pour bientôt. Donc là, on a écouté ce qu'on vient d'entendre. C'est le thème de fin du film In the Mood for Love, donc de Wong Kar-wai. Et puis, on va continuer avec un autre film qui est un peu plus vieux, mais un film assez exceptionnel, celui de Charlton, qui s'appelle L'ennemi du chasseur. Vous allez tous reconnaître la voix de Charlton.
Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, for inwardly they are ravening wolves.
Voilà, petit extrait de la musique du film de Charles Laughton, La nuit du chasseur. Musique composée par un nommé Walter Schumann, qui est décédé tout de suite après le film. Donc c'est pour ça qu'on n'en a plus entendu parler. Quoi. Il a fait qu'une seule musique de film qui est assez, qui est restée dans les annales, avec en particulier l'emploi de ces mélodies un peu enfantines, comme celles qu'on vient d'entendre. On va passer à autre chose, un autre compositeur célèbre. C'est Angelo Badalamenti qui compose pratiquement toutes les musiques de films de David Lynch depuis le début. Mais là, c'est un petit clin d'œil, puisque ce n'est pas Angelo Badalamenti qu'on va écouter, c'est Alberto Badalamenti, et ça s'appelle 15h38.
Il est 15h35. L'ONU confirme que les forces serbes bosniaques ont évacué ce matin le mont Bejalinska. L'armée libanaise commence à se déployer dans le sud du pays, là où sont les casques bleus de la Finule. Les gens de Wadaï protestaient contre un massacre commis mercredi dernier près d'Abéché par des commandos non justifiés et non identifiés. Il y avait eu 82 morts. Il est tout juste 15h38. Il est tout juste 15h38. Il est tout juste 15h38. 38 minutes. Le scout de 13 ans, touché par la foudre hier après-midi à Font-Romeu, est toujours dans un état très grave. Il est au CHU de Montpellier. La jeune randonneuse disparue dans le massif de Loisan a été retrouvée morte ce matin. Elle a fait une chute d'une centaine de mètres sur le versant nord du sommet. Les terroristes corses du FLNC revendiquent l'assassinat de trois des leurs. Nous sommes allés là-bas, a-t-il dit, parce que 300 000 Somaliens étaient morts de faim et des suites de la guerre. Des millions d'autres étaient en danger de mort. Ils sont maintenant sauvés. Il est tout juste 15h38. Il est tout juste 15h38. Il est tout juste 15h38. 38 minutes.
L'univers de David Lynch, revu et corrigé non pas par Angelo Badalamenti, mais par Alberto Badalamenti. Bon, en fait, c'est une parodie donc qui a été réalisée par un duo du nom de Lev Dup et Lev Dup, qui ont sorti plusieurs disques sur le label Bondage il y a quelques années, dont celui-ci. On va retrouver maintenant un autre grand compositeur, un très grand. Il s'agit de Howard Shore, qu'on va écouter ici dans un extrait de la bande originale du film Ester Khan, donc film de Desplechin, d'Arnaud Desplechin, film français donc, mais un grand réalisateur américain donc au service de ce film. Un court extrait, donc c'est le générique, c'est la musique du générique. Ester Khan. Thank you.
And so they dream, these two wanderers upon the lonely earth, upon the dark river.
Toujours la voix de Charles Laughton, extraite du film donc La nuit du chasseur sur une musique de Walter Schumann. On va retrouver maintenant une musique que tout le monde connaît. C'est la bande originale du film Le Mépris de Godard, donc composée par Georges Delerue, 1963.
Tumulte sur Radio PFM 99.9 et dans une dizaine de minutes, ce sera le journal de Tumulte. Nous recevrons Frédéric Lépinet, auteur du livre La Voix du Nord, Histoire secrète. Magazine Tumulte, quatrième Tumulte du mois. Un rendez-vous qui, je l'espère, va se renouveler avec Claude.
Voilà, donc on va poursuivre cette programmation donc autour du cinéma. On va rappeler que le morceau que vous venez d'entendre, c'est tiré de la bande originale du film Le Mépris, donc film de Godard, et que c'était composé par Georges Delerue, et le morceau s'appelle Camille. On va maintenant changer de style, avec de la musique qui s'énerve un peu plus. On va retrouver Eugène Chadbourne, donc un guitariste que vous avez l'occasion d'entendre régulièrement, je pense, dans cette émission, et qu'on va écouter ici à ses tout débuts, alors qu'il était encore guitariste et chanteur du groupe Chocabilly, pour un morceau qui était le titre que l'on voyait, que l'on pouvait entendre lors du film Blow Up d'Antonioni, que l'on voyait donc interprété par les Yardbirds. Mais on va écouter ici par Chocabilly, donc The Train Kept Rolling.
Thank you very much, it's been a wonderful audience, and here you go. Let her go. That ain't enough. Sweet little
Voilà, et puis on va donc terminer cette petite séquence consacrée au cinéma avec la musique du film L'Insoumis, l'un des rares films sur la guerre d'Algérie réalisé en France, donc par un réalisateur rare, Alain Cavalier, un film qui est passé justement récemment à la télévision, que vous avez peut-être vu, et une musique qui était également signée de Georges Delru. Voilà.
Eh bien, Claude, on te retrouve dans un mois.
Ah oui, oui, oui. Avant les fêtes, juste avant les fêtes.
Quatrième tumulte du mois. Hein.
Très bien.
Ciao.
Salut, au revoir.
Tumulte sur Radio PFM. Dans quelques minutes, nous recevrons Frédéric Lépinet, ancien journaliste à La Voix du Nord. Il est l'auteur du livre intitulé La Voix du Nord, histoire secrète. Guy et Nico seront là pour l'interviewer. Une petite pause musicale avec une nouveauté, c'est le nouvel album de Jean-Marc Padovani, Cantilène. عندك لا تغرب يا عندك لا تغرب يا وانا خاويك عمار We'll be right back. le journal de tumulte avec Guy et Nico. Nous recevons Frédéric Lépinet, auteur du livre La Voix du Nord, histoire secrète, paru aux éditions Les Lumières de Lille. Frédéric Lépinet, ancien journaliste à La Voix du Nord, retrace 60 ans de l'histoire d'un des principaux groupes de presse français.
Frédéric Lépinet, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes actuellement journaliste indépendant. Vous collaborez notamment avec l'agence de presse Associated Press et puis l'hebdo Le Journal du Dimanche. Donc vous avez travaillé longtemps à La Voix du Nord et vous avez commencé par être ouvrier d'entretien à partir de 84 et puis en 89, après avoir repris des études, vous y êtes devenu journaliste. Alors vous avez sorti récemment un livre qui s'intitule La Voix du Nord, histoire secrète. Alors vous qui avez quitté en l'an 2000, donc qui avez quitté la rédaction de La Voix du Nord, pourquoi écrire ce bouquin sur l'histoire de ce groupe de presse ?
Eh bien, parce que quand j'ai quitté mon entreprise en 2000, à la suite de ce qu'on appelle une clause de cession, c'est-à-dire que le capital de l'entreprise changeait de main. C'était d'ailleurs le groupe belge Rossel qui rachetait une première fois l'entreprise. C'est une entreprise dans laquelle je me sentais plus très bien et je ne savais pas où elle allait. J'avais du mal à y exercer mon métier. Et j'ai préféré la quitter à ce moment-là.
Alors au moment où vous quittez donc La Voix du Nord, est-ce que ça vous vient tout de suite l'idée de d'écrire un bouquin là-dessus ? Est-ce que vous avez déjà des choses à écrire ? Ou est-ce que ça peut être aussi interprété comme une manière de régler vos comptes, non ?
Un règlement de compte, non, pas du tout. C'était surtout une envie de savoir. J'ai pas compris ce qui s'était passé au cours des 10 années... au cours desquels j'ai travaillé à La Voix du Nord. Je me suis surtout intéressé à ce qui se passait à l'extérieur. Je faisais mon travail de journaliste de manière honnête, je pense. Et en 2000, quand ce groupe belge est arrivé, je savais évidemment qu'il y avait des batailles capitalistiques assez violentes au sein de la direction du journal. Mais je ne pouvais pas enquêter, évidemment. Je travaillais dans cette entreprise, j'avais des éléments et j'ai voulu en savoir plus. Quand j'ai repris ma liberté, j'ai commencé à suivre mes anciens patrons dans les différentes juridictions commerciales, correctionnelles, civiles, des tribunaux de Lille. C'était très intéressant et je me suis dit, c'est une histoire extraordinaire.
Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous essayez de vous documenter ? Comment est-ce que vous avez fait ce travail ? Il faut dire que c'est un livre qui est vraiment très bien documenté apparemment.
Oui, c'est un très gros travail d'enquête. Tout simplement, j'ai commencé comme n'importe quel, on va dire, étudiant en histoire, hein, qui se plonge sur un sujet, et il essaye de trouver ce que les autres ont écrit avant lui. Eh bien, le premier constat, je me suis aperçu que La Voix du Nord n'avait jamais écrit sur elle-même, sur son histoire, à part quelques numéros anniversaires sans intérêt. Donc c'est pas dans les pages du journal ou dans les éditions que pouvait publier ce grand titre que je pouvais trouver des informations. En revanche, j'ai trouvé deux bouquins très très importants dans l'histoire de La Voix du Nord que je cite évidemment dans mon livre. C'est un premier livre publié en 1946 qui s'appelle Le mensonge reculera, qui est écrit par le cofondateur de La Voix du Nord. Il s'appelle Nathalie Dumaise. Et un deuxième livre écrit en 1975 par l'avocat de ce premier auteur, Nathalie Dumais, donc un avocat qui s'appelait Maître André Diligent, sénateur maire de Roubaix, qui avait défendu pendant à peu près 30 ans un groupe de résistants qui avait été écarté de la fondation du titre en 1944 à Lille.
Alors oui, donc un travail sur les écrits, aussi un gros travail de rencontre.
Oui, évidemment, oui. Après, faut sortir de la doc, des livres. Bon, j'ai passé pas mal de temps aux archives départementales du Nord. Évidemment, faut du témoignage vivant. Bon, sur le contemporain, c'était un peu plus facile, mais néanmoins, j'ai eu quelques surprises. C'est-à-dire que la plupart des cadres très importants, des dirigeants de La Voix du Nord, ont tous refusé de me parler.
Oui, un autre point à ajouter, c'est que vous êtes aussi, donc votre famille est impliquée dans ce journal de la Voix du Nord, puisque votre père y était. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser
Oui, tout à fait. Je suis en quelque sorte d'une lignée, on va pas dire d'une famille de presse, mais tout simplement mon père a débuté sa carrière professionnelle comme typographe, metteur en page. Hein. C'était ces gens qui utilisaient les caractères de plomb. Et qui montait les pages, hein. C'est une méthode d'impression qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, il a fait une très longue carrière à La Voix. Il y est rentré en 49. Il a quitté l'entreprise en 83 en tant que chef d'un atelier de photocomposition. Hein. En 83, retraité. Bon, la presse est une vie très particulière. Hein. C'est un travail de nuit, des horaires longs. Enfin, on travaille beaucoup et puis c'est un métier passionnant. Et il s'est retrouvé donc retraité, s'ennuyant beaucoup. Et puis un beau jour, 5 ans plus tard, en 1988, un de ses anciens patrons lui a passé un coup de téléphone, l'invitant à rejoindre en tant que entre guillemets sage le conseil d'administration de La Voix du Nord. Il s'ennuyait beaucoup et il a été très fier d'être rappelé. Il s'est fait piéger.
Oui, on va revenir sur ces questions. On peut signaler quand même que votre père, il est passé par Arras. C'est dans la note, il y a une petite note de présentation dans le livre. Il est passé, il a travaillé donc dans un journal qui s'appelait Libre Artois, c'était le journal de Guy Mollet à Arras. Donc vraiment une famille de presse. Alors justement, votre père, on apprend qu'il a quitté ce conseil d'administration, conseil de surveillance, qui est quand même bon une instance importante dans la Voix du Nord. Il y a très peu de temps, c'était en juin 2005, donc le bouquin était bouclé. On va y revenir. C'est quand même un bouquin assez critique hein, par rapport à la Voix du Nord. Comment il a reçu ce bouquin? Quelles sont vos relations là aujourd'hui avec votre père?
Oui, ça peut paraître, certains m'ont dit oui, il a tué le père. Bon, pas du tout en fait. Je pense que il a fait partie de ces gens un peu aveuglés, trop fidèles par rapport à une grande entreprise avec une très longue histoire dont il ne connaissait pas en fait les dessous. C'est sûr, je me suis souvent fâché avec lui. Il était désinformé sur ce qui se passait réellement. Et bon, donc ça a été pour moi certes difficile, mais j'ai toujours l'habitude de dire que le journalisme est une profession très difficile parce que un jour ou l'autre, on peut se retrouver confronté personnellement ou dans son entourage avec une actualité et cette actualité. Le devoir du journaliste, c'est de la couvrir. Je crois que fondamentalement, le devoir du journaliste, c'est de dire la vérité.
Alors, d'entrée de jeu, hein, en répondant à une question de Nicolas, vous avez parlé de La Voix du Nord comme une entreprise, l'entreprise que vous avez quittée, plutôt qu'un journal. Hein, donc, on reviendra bien entendu là-dessus. Quoi. Est-ce que La Voix du Nord est avant tout une entreprise ou avant tout un journal? Mais pour boucler un petit peu votre présentation, la bio, donc on a dit que vous êtes rentré à La Voix du Nord comme agent de service, et vous êtes devenu journaliste, mais vous n'avez pas de formation de journaliste, vous n'êtes pas passé par le moule de l'École supérieure de journalisme de Lille, qui a alimenté énormément, notamment la Voix du Nord. C'est vraiment une formation sur le tas. Quelque part, vous êtes un autodidacte. Est-ce que c'est encore possible dans le journalisme aujourd'hui? Et puis, pour conclure, qu'est-ce que c'est aujourd'hui un journaliste indépendant?
Sur mon parcours, il est assez simple. Hein. Je suis finalement... si mon père avait travaillé chez Renault ou dans une boîte industrielle, je serais peut-être rentré dans cette boîte. Quoi. J'avais un peu bâclé mes études secondaires et puis je me retrouvais sans boulot. Quoi. Mais j'avais pas peur de travailler, donc j'étais ouvrier d'entretien à La Voix du Nord. Je leur récurais leur toilette, leur douche, leur sol. Bon, maintenant je suis passé à un autre niveau, quoi. Je récure leur histoire. Bon, voilà. Bon, là-dessus, j'ai effectivement.
Comment ça s'est passé l'évolution, quoi?
L'évolution, bon, je vous ai dit mon
parce que ça fait un peu bon parcours de rêve quelque part hein, on rentre
ouais,
comme
mais je crois que vous savez les si vous regardez enfin bon les parcours de journalistes notamment dans la presse de région hein, de la presse régionale il y a finalement assez peu de gens qui sont formatés dans les écoles quoi, c'est souvent des gens qui viennent d'autres métiers qui sont parfois correspondants, il y a un certain nombre de correspondants qui ont été embauchés là suite à un grand nombre de départs de journalistes. Moi je les encourage à travailler et puis à faire leur boulot le mieux possible et surtout à ne jamais plier devant les pressions, devant leur hiérarchie quand ils ont une info, faut la bosser à fond. Bon. Donc voilà pour la formation, j'en ai pas, mais je veux dire c'est un métier qu'on peut apprendre vite aussi si on a envie. Hein.
Donc formation sur le tas. Et donc aujourd'hui, donc c'est la présentation hein, en quatrième de couverture. Vous dites journaliste indépendant à Lille.
Ouais, journaliste indépendant. Enfin bon, j'aime pas trop la formule journaliste pigiste, mais elle est plus exacte. Hein. Pigiste, c'est le journaliste qui est payé à l'information. Donc ça fait 5 ans et demi que j'ai plus de salaire fixe. Hein, voilà quoi. Donc je suis parti d'une situation assez confortable. Enfin confortable non, mais j'avais un salaire correct après 10 ans d'ancienneté. J'ai choisi de remettre le bleu de chauffe quoi voilà bon parce que je pouvais pas supporter de bosser dans cette boîte où ça n'avance pas quoi je vois ma région qui va mal je lis pas ma région dans le journal quoi donc ça va pas et on doit aller beaucoup plus loin dans l'information faut pas avoir peur de bousculer les institutions et le système ambiant qui on le sait ne va pas quoi hein.
Du genre humain, aiguisent leurs croyances à leur convenance. Ils ont renoncé bien vite à leurs illusions, ils ont renoncé, commencé à s'armer. Nous sommes les vivants. We'll be right back.
Magazine Tumulte sur Radio PFM, nous recevons Frédéric Lépinet, auteur du livre La Voix du Nord, Histoire secrète, Nico et Guy pour l'interviewer.
Alors on va peut-être préciser, juste avant de poursuivre cette interview, hein, qu'on a bien sûr sollicité La Voix du Nord pour donc donner un commentaire sur ce livre et puis pour donc participer à cette discussion. Bon, ils ont décliné l'invitation, on nous a un petit peu renvoyé de bureau en bureau pour finalement qu'au bout d'une quinzaine d'appels, une secrétaire nous dise écoutez, on n'a pas de commentaire sur ce sujet.
Pour compléter ce que tu dis, on peut aussi signaler qu'il ne faut pas aller chercher dans La Voix du Nord un article hein, sur ce livre. Bien entendu, hein, c'est le blackout complet.
Oui, c'est le monde du silence. Comme j'ai dit récemment, j'ai l'impression que cette entreprise est dirigée par le commandant Cousteau. Voilà, bon. C'est une culture d'entreprise hein, qui est vraiment inscrite dans son histoire. C'est une sorte de fil conducteur de permanence. L'entreprise ne veut pas répondre aux critiques et surtout ne veut pas regarder la vérité en face.
Alors avant de revenir à l'histoire de La Voix du Nord, on va peut-être faire un point, remettre dans le contexte d'aujourd'hui, donc ce quotidien de presse régionale. Aujourd'hui, un autre quotidien, Libération, est en grève, donc ça révèle quand même une crise dans le monde de la presse française. Quelle est la situation de La Voix du Nord aujourd'hui? Je parle en termes financiers, de diffusion et puis aussi peut-être de nombre d'emplois, de collaborateurs.
Ouais, donc pour certains doivent le savoir, maintenant la Voix du Nord a changé une quatrième fois de main et se retrouve à nouveau entre les mains du groupe belge Rossel, qui est l'éditeur notamment du quotidien belge Le Soir. Donc voilà, c'est la deuxième fois que Rossel est propriétaire de La Voix du Nord, mais encore une fois, c'est pas dans les pages du journal. C'est un journal qui se sort pas trop mal de la crise finalement, quoi. Officiellement, en vente, c'est 297 000 en moyenne. C'est un groupe de presse qui a trois quotidiens, hein, donc La Voix du Nord, Nord Éclair sur Roubaix-Tourcoing. Et puis Nord Littoral à Calais, donc trois quotidiens sur une région de 4 millions d'habitants, c'est quand même pas mal. Mais surtout, ce réseau est maillé d'une dizaine d'hebdomadaires. Hein. C'est notamment l'Indicateur des Flandres et j'en passe. C'est un groupe de à peu près 1500, 1600 personnes, dont 1000 travaillent pour le titre phare, La Voix du Nord. C'est un journal qui gagne de l'argent hein, sans trop de subir la crise. Il y a actuellement encore 267 journalistes sur l'ensemble du territoire, les deux départements. Bon, moi je pense qu'il en faudrait encore un peu plus, mais les journalistes coûtent cher, paraît-il.
Alors oui, justement, il y a plusieurs références au contenu rédactionnel dans le... Dans ce livre, et notamment l'idée que une des idées rédactionnelles de base, c'est qu'il faut essayer de déplaire au moins de personnes possible.
Oui, c'est effectivement une autre permanence du journal, c'est-à-dire que le titre doit informer sans chercher à déranger ses lecteurs tant sur le plan des opinions politiques, religieuses, je ne parlerai pas des orientations sexuelles, mais donc ce qui fait qu'on a souvent l'impression que ce journal est souvent dans le sens du vent, quoi. Une fois que le pays est à gauche, il semble à gauche. Quand il est à droite, le journal est à droite aussi.
Et ça dure depuis le début. Hein. Je pense que on y reviendra. Alors que au départ, c'est quand même un journal engagé quelque part, puisqu'il est issu de la résistance. Mais bon, on reviendra là-dessus. Non, ce que je veux dire, c'est que vous citez un chiffre qui interpelle dans votre livre, justement sur la situation actuelle de La Voix du Nord, c'est que depuis, dans les cinq dernières années, sur 280 journalistes, il y en a 150, donc plus de la moitié, qui ont quitté volontairement le journal. Hein, justement, suite à ces changements de propriétaire, etc. C'est la clause de cessation, hein, je pense.
Clause de cession d'entreprise. Hein, voilà. On cède l'entreprise à un nouvel actionnaire. Effectivement, bon, il y a un peu plus de 150 journalistes qui sont partis. Faut relativiser un peu, bon, parce que comment dire, un certain nombre était un peu en fin de carrière, quoi. Donc c'est difficile d'exercer c'est un métier dur, exercer sa profession quand on a 55, 56 ans et puis qu'on peut partir avec une grosse indemnité. Je pense que j'aurais fait la même chose. Peut-être que, bon, sans être orgueilleux, peut-être qu'avec cette indemnité, j'aurais fait le canard enchaîné du coin, je sais pas quoi, mais voilà. Bon, ça a permis en même temps de renouveler un peu la rédaction. Alors après, le problème, c'est la mémoire. Les gens qui sont partis avec leur carnet d'adresse, leurs souvenirs, leur expérience, c'est sûr que sur certaines informations, c'est assez difficile aujourd'hui pour les jeunes. Mais bon, moi, je veux dire, encore une fois, pour ces jeunes journalistes, je les encourage à travailler et puis apporter, s'ils le peuvent, une information véritable sur ce qui se passe ici, dans nos grandes villes et dans notre région.
Alors, il y en a qui sont partis, hein, profitant d'une opportunité financière, mais il y en a qui sont partis comme vous, suite quand même, bon, quelque part à un conflit, hein, vous le notez aussi, c'est une note, hein, dans le livre, qu'en mars 2000, vous avez été l'objet d'une sanction disciplinaire pour insubordination. Bon, cette insubordination, c'est, en fin de compte, vous avez râlé contre le fait qu'un article soit censuré. Hein. Donc à partir du moment où on n'est pas dans le moule, on est quand même très mal vu, on est poussé vers la sortie.
Ouais, personne m'a poussé, mais évidemment, quand on refuse de faire passer vos papiers, vous comprenez qu'il faut aller voir ailleurs. Bon, je me plains pas d'être allé voir ailleurs. Hein, je suis seulement un peu, consterné peut-être par le journal qui continue à faire comme s'il se passait rien ici, quoi.
Alors, vous avez dit le groupe Voix du Nord, c'est plusieurs journaux, donc la Voix du Nord, c'est aussi Nord Éclair. Bon, quand on lit le bouquin, et puis c'est aussi le sentiment qu'on a eu pendant un moment, on avait l'impression que c'était l'inverse, hein, c'est-à-dire que c'est Nord Éclair qui avait racheté la Voix du Nord, c'est-à-dire le petit qui avait réussi à manger le gros. Bon, on reviendra là-dessus, mais en tout cas, toujours est-il que le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un monopole dans le Nord-Pas-de-Calais de la presse, de la presse quotidienne, c'est la Voix du Nord. Il n'y a qu'une seule voix de presse, et ça, c'est, je pense qu'un journaliste, ça doit être difficile à accepter.
Oui, effectivement. Quand dans une grande région, il n'y a plus qu'un journal, plus qu'un titre en presse écrite qui domine et qui peut faire ce qu'il veut de l'information, c'est assez inquiétant, je dirais.
Donc je reviens à votre livre Voix du Nord, histoire secrète. Donc c'est un livre qui est un peu construit comme un polar, un style auquel vous faites référence plusieurs fois dans le bouquin. Alors j'ai noté peut-être deux grandes parties, une qui concerne la première qui concerne la période d'après-guerre et puis la deuxième qui concerne peut-être donc les années 80, les opérations financières et politico-financières. Alors dans la première partie, celle qui commence donc pendant la guerre et donc c'est ce qui était montré dans le bouquin, c'est que en fait l'idée que la Voix du Nord était un journal issu de la résistance, c'est finalement complètement usurpé.
Ouais, c'est une imposture, puisque la Voix du Nord a écarté son fondateur survivant, que j'ai déjà cité plus tôt, Nathalie Dumay. Elle l'a écarté pour des raisons d'opportunité, de pouvoir, des raisons politiques. Donc c'est la première escroquerie, effectivement.
Oui, il n'y a pas que ce Nathalie Dumay qui est écarté, aussi hein, un grand nombre de membres de ce mouvement Voix du Nord, mouvement résistant, ont été écartés, en tout cas laissés pour compte dans la prise des actions.
Ouais, effectivement. Donc, Nathalie Dumay, qui était un personnage assez extraordinaire, qui a une vie vie peu commune. Évidemment, il avait créé ce titre sous l'occupation nazie. Pensez bien que quand il rentre des camps de déportation en 1945 et qu'on lui dit « Nathalys, assieds-toi là, tu vas prendre un chèque tous les mois et puis laisse-nous travailler », ça lui plaît pas beaucoup. Et donc, il engage des procédures judiciaires pour obtenir la part qui lui revient réellement. Donc, il va crier un peu seul pendant quelques temps et un peu à la fois, plusieurs dizaines, puis après plusieurs centaines de résistants à qui on ne reconnaîtra pas une certaine paternité sur ce journal clandestin. Rejoindront les procédures judiciaires qui vont durer 31 ans entre 1946 et 1977, qui vont se conclure par une convention qui sera finalement vite oubliée et pas respectée.
Ouais, vous expliquez, hein, je pense que il faut le dire, effectivement. Ses amis du réseau Voix du Nord, du réseau résistant, bon, c'était quand même un réseau résistant assez soudé. Ceux qui ont donc poursuivi l'aventure de la Voix du Nord ont profité de la détention dans un camp hein, de Nathalys Dumay pour l'évincer. Donc ça donne quand même, quand on lit le début du bouquin, ça donne un petit peu une idée de l'état d'esprit hein, des personnes qui naviguer dans ce réseau et qui avait déjà à l'esprit, je pense, qui avait déjà oublié les années de résistance, qui avait déjà à l'esprit l'idée de monter une entreprise très rentable.
Oui, il y a évidemment un journal, hein, c'est un enjeu de pouvoir et puis également d'argent. Si on se resitue dans le contexte de l'époque, faut savoir que en 45, 46, 47, il y a une très grande peur du communisme. Hein, c'est le début de la guerre froide. Si la Voix du Nord a échappé finalement à aux mains de son fondateur, c'est aussi parce qu'il avait un autre programme politique et peut-être citoyen que celui que voulaient appliquer les dirigeants qui avaient pris la place qui ne leur revenait pas directement.
Alors un autre point qui est soulevé dans le bouquin, c'est cette histoire du titre Voix du Nord, à qui appartient-il ?
Oui, alors ça c'est une découverte que j'ai faite en débutant de manière un peu amusante, en me disant mais tiens, quand on crée un titre, quand on veut baptiser un journal, surtout sous l'occupation nazie, on ne choisit pas le titre par hasard. Je me disais aussi que un journal, c'est un peu comme un bébé, un enfant. Quand on cherche le prénom de son petit ou de sa petite à venir, on ne le choisit pas non plus sans y avoir songé très longtemps. Et je suis remonté donc sur les différentes créations de ce titre. Je me suis aperçu qu'elles étaient finalement assez nombreuses dans l'histoire de la région, mais je me suis surtout arrêté à un titre qui s'appelait La Voix du Nord, mensuel monarchiste, fondé en 1939 par un avocat lillois qui avait non seulement fondé ce titre en 39, l'avait arrêté évidemment en mai 40, avait empêché la création d'une Voix du Nord pro-allemande en 1941 demandant aux collaborateurs qui voulaient lancer une Voix du Nord pro-allemande de renoncer au titre qu'ils utilisaient, puisque le titre Voix du Nord sous-titré monarchiste lui appartenait. Et donc ce titre collaborationniste est devenu La Vie du Nord. Il a d'ailleurs été assez florissant, c'était un hebdomadaire, il a été assez florissant entre 1941 et 1944. Il a évidemment disparu à la Libération. Donc se pose le problème de ce titre. Quand Nathalys Dumay et son ami, que je n'ai pas encore cité, c'est Jules Noutour, l'autre fondateur de la Voix du Nord, qui est un policier lillois, quand il fonde ce titre dans la clandestinité, Ils vont évidemment choisir ce titre sans, en étant obligé de se référer à quelque chose. Et cette référence, je l'ai trouvée à travers les amitiés qu'avait l'avocat lillois avec un frère de Nathalie Dumay. Donc évidemment, je peux pas prouver que Nathalie Dumay a créé ce titre en rapport à La Voix du Nord monarchiste, mais de toute façon la paternité, la propriété du titre appartient toujours aux descendants de cette famille d'avocats. Ma conclusion étant que La Voix du Nord aujourd'hui, qui édite donc son journal dans le Nord-Pas-de-Calais, n'est pas propriétaire, n'a pas les droits intellectuels et moraux du titre qu'elle affiche tous les jours en une de son journal. Je trouve ça assez un retour d'histoire assez étonnant.
Alors une autre révélation qu'on peut lire dans ce bouquin, c'est cette étrange connivence entre la Voix du Nord et puis les grands échos du Nord.
Oui, c'est la connivence en fait. Bon, donc il faut remonter un peu dans l'histoire de la presse. Hein. Toute la presse française aujourd'hui, la presse écrite, est refondée en septembre 44. Hein. Le gouvernement provisoire de Charles de Gaulle rédige des directives hein, qui ont pour but de supprimer l'ensemble des titres qui ont collaboré pendant l'occupation nazie. Ce qui fait que de très vieux journaux français ont purement simplement disparu en septembre 44. Bien, mais que deviennent leurs locaux, que deviennent leur personnel? Eh bien, il est tout simplement repris par quelques journaux de la résistance, comme à Lille, La Voix du Nord, qui n'est en fait en septembre 44 plus rien. Mais on va dire que c'est finalement... notamment pour le cas lillois, l'écho du Nord qui va reprendre la place de la Voix du Nord, puisque les membres du mouvement de résistance étaient ignorants des méthodes de fabrication d'un journal. Ils n'étaient plus qu'une poignée. Ils avaient un lointain rapport avec ce titre et ils se sont tout simplement fait phagocyter par la direction de l'écho du Nord. D'ailleurs, dans l'histoire de la Voix du Nord cache toujours aujourd'hui encore son premier rédacteur en chef et directeur qui s'appelait Léon Chadet, parce que Léon Chadet avait été recruté par l'ancien PDG de l'écho du Nord.
Alors, je sais pas, Guy, si on peut peut-être passer à la...
Encore là-dessus, parce que ouais. Bon, on peut le dire. Bon, là, tout le monde sait où la Voix du Nord est installée à Lille, hein, donc sur le grand bâtiment. Bon, c'est pas un bâtiment de la Voix du Nord. C'est un bâtiment, justement, qui était l'immeuble de l'Écho du Nord, le journal, donc, qui a précédé, hein, comme vous l'avez expliqué, la Voix du Nord. Mais, bon, une petite anecdote quand même, c'est qu'au début, il n'y avait pas que la Voix du Nord qui occupait ce bâtiment et qui utilisait l'imprimerie, de l'Écho du Nord, du Grand Écho du Nord. Il y avait le journal Liberté, donc les communistes, et il y avait cohabitation dans ce même bâtiment et de la Voix du Nord, donc plutôt gaulliste. Hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça pour aller vite. Et du journal Liberté communiste, et c'était apparemment assez assez chaud, quoi.
Ouais,
c'était... comme cohabitation.
Oui, bien sûr. Alors donc, à la libération de Lille, la Voix du Nord s'installe, mais la Voix du Nord, c'est 3-4 personnes. Hein, donc c'est l'ensemble du personnel du Grand Écho du Nord. Et puis, voilà que s'installe également et revendique haut et fort sa place les communistes du journal Liberté, à tel point que Liberté va occuper le premier étage, c'est-à-dire l'étage qui donne sur le balcon, le balcon qui donne sur la Grand Place, et y installe son ancienne. Et cette enseigne va rester sur la Grand Place de 1944 à 1956. Bon, évidemment, pour les jeunes, ça paraît complètement inédit, enfin étonnant, invraisemblable, sachant que peu de gens connaissent encore le journal Liberté, qui est devenu un hebdomadaire. Mais les communistes avaient effectivement eu la possibilité de remporter l'ensemble de l'immeuble. Et on est allé chercher ce petit journal clandestin, La Voix du Nord, tout simplement pour empêcher les communistes, qui représentaient selon les élus de l'époque et les gaullistes, une menace sur la stabilité du pays, pourquoi pas une menace sur une invasion soviétique en Europe. Hein. Faut reprendre un petit peu les données historiques de l'époque. Les Russes étaient pas très loin de Lille.
Donc on va peut-être passer à la deuxième partie du bouquin qui elle est consacrée donc à la Voie du Nord pendant les années 80, son évolution. Donc on parle pas mal d'opérations financières, d'opérations politico-financières. Vous y décrivez une Voie du Nord qui est proche des milieux politiques en place, et puis aussi vous y décrivez des dirigeants qui réalisent des plus-values énormes sur les actions Voie du Nord.
Oui, tout à fait. Bon, encore un fil conducteur de l'histoire, c'est l'argent, évidemment. Donc, cet argent qui a entraîné la mise à l'écart d'un grand nombre de résistants, qui ont fini par obtenir justice en 1977. Peu de temps après, ça recommençait, quoi. Les années 80, c'est les années tapis, c'est les années fric. Et à la fin des années 80, les dirigeants de l'époque en place, dont un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Prévost, qui était un patron de presse dynamique, va s'emparer avec un certain nombre de ses amis de la direction du capital du journal, en mettant en place un certain nombre de mécanismes financiers qui vont finir par lui péter au nez, à tel point que il fera perdre l'indépendance, tout au moins sur le papier, du journal, qui tombera dans les mains du groupe belge Rossel en 1998-99. Donc ça sera le premier rachat du journal, et donc d'intenses batailles autour du fric. Et toujours du fric.
Alors, dernier point qui est soulevé aussi dans votre ouvrage. Donc, c'est un point qui pourrait paraître anecdotique, mais non, selon vous, c'est cette histoire des colporteurs.
Ouais, c'est sans doute l'information la plus scandaleuse du livre, celle qui devrait me valoir des poursuites en justice, puisque je suis diffamatoire à l'égard de la Voie du Nord. Je dis que la Voie du Nord fait les poches de ses petites mains, ses petites mains étant ses vendeurs colporteurs de presse. Ce sont donc ces travailleurs indépendants qui vont déposer le titre chaque matin en se levant très tôt dans les boîtes aux lettres des lecteurs de la Voie du Nord. Bon, je dis simplement que la Voie du Nord ne rémunère pas équitablement ces travailleurs qui sont isolés, qui sans doute ont peur de revendiquer, mais l'entreprise va leur voler de l'argent dans le porte-monnaie. Elle va en moyenne leur prendre environ 300 euros par an depuis près de 15 ans. Il y a 1200 colporteurs de presse dans le réseau Voie du Nord. Ça représente une somme très importante. Au-delà de l'argent, c'est tout un symbole de l'histoire de ce journal qui écrase les gens, qui les méprise, qui ne les respecte pas. C'est un pur scandale. Bien, le journal ne réagit pas. J'ai croisé le directeur général la semaine dernière. Il m'a dit que je me trompais. Moi, j'ai posé des questions à la Voie du Nord depuis le mois d'avril 2005. J'ai toujours pas eu de réponse. Alors, je veux bien entendre que je me trompe, qu'on me démontre que je me trompe.
Mais alors, justement, est-ce que la Voie du Nord a porté plainte contre vous? Est-ce qu'elle a intérêt à faire ça, ou est-ce qu'elle pratique plutôt la politique de l'autruche?
Non, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de procès, j'ai pas de poursuite judiciaire. Moi, je suis pas en mesure de subir de longs procès. Je suis seul, j'ai pas d'argent. Moi, j'ai mes infos. J'ai fait une enquête sérieuse, recoupée. J'ai interrogé tout le monde. Maintenant, si le journal ne veut pas réagir, c'est bien dommage. Je crois que pour une entreprise de presse qui est censée apporter de l'information au lecteur, c'est quand même un beau symbole de mensonge. «
Magazine Tumulte sur Radio PFM, nous recevons Frédéric Lépinet, auteur du livre La Voix du Nord, Histoire secrète. Frédéric Lépinet, une petite question pour redémarrer cette interview. Vous nous avez parlé de la force de La Voix du Nord en tant qu'entreprise, sa capacité rédactionnelle à ne pas déplaire, au pouvoir en place, à ne déplaire à personne, une force de consensus, mais est-ce qu'il n'y a pas... Une recette secrète, pas l'histoire secrète, mais une recette secrète de La Voix du Nord, qui est quand même un formidable journal capable d'aspirer, d'éponger et de retraduire la vie locale, cette proximité du journal avec les habitants d'une ville, d'un village, d'une région. C'est quand même ça, sa force, non ?
Oui, c'est la force de ce qu'on appelle la presse quotidienne régionale, la PQR. C'est cette proximité, cette implantation à travers un territoire. Et finalement, le seul lien avec un média dans cette proximité, c'est ces titres de presse écrite. Effectivement, c'est ce qui fait la force du canard, couvrir... les petits et les grands événements du quotidien. Bon, mais peut-être je vais reprendre mon ton critique. Au bout du compte, est-ce que La Voix du Nord couvre-t-elle finalement très bien cette actualité locale ? Moi, quand j'ai travaillé à La Voix du Nord, je militais pour qu'on relance... une force rédactionnelle sur le terrain, qu'on recrute des journalistes. Je me souviens m'être mis en grève pour les 35 heures, pas du tout pour récupérer de la RTT, mais plutôt pour échanger ces journées de RTT contre des emplois de journalistes, c'est-à-dire recruter des gens qu'on pourrait remettre dans les locales pour faire du terrain. Parce qu'en fait, sur le fond, quand on connaît comment fonctionne le titre, il y a de moins en moins de journalistes sur le terrain. Je vais prendre encore une fois mon exemple. En 95, j'étais 5 jours sur le terrain. Quand je suis parti en 2000, j'y n'y étais plus que 3 jours. Les 2 autres jours étant consacrés à des tâches techniques qui n'ont rien à voir avec le journalisme. Et il faut des gens sur le terrain, il faut des journalistes près de la population pour raconter ce qui se passe, bien sûr. Mais il y en a de moins en moins.
Quand vous parlez de tâches techniques, c'est des, un travail lié à la mise en page, parce que les oui. journalistes sont de plus en plus obligés de s'occuper de cette mise en page.
Voilà, oui, mise en page, relecture de papier. Bon, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé non plus de ce réseau de correspondants qui est très dense sur la région. Il y a un millier de correspondants. Correspondants de presse, donc des gens qui sont également des soit des salariés d'une autre entreprise, mais qui ont ce petit boulot et qui font les petits événements dans les petites communes rurales ou dans les zones un peu plus urbaines. Et ces gens-là, bon, font remonter également de l'information.
Alors, Jean, tu disais hein, l'aspect local qui fait la force de la Voix du Nord, hein, c'est sûr, mais ça présente aussi un avantage, parce que c'est sans doute c'est un peu sous-entendu sans doute dans la réponse, Frédéric Épiné, c'est aussi le journalisme qui coûte le moins cher. Bon, on a déjà parlé des colporteurs, mais il faudrait parler aussi des correspondants. Hein, ce sont des gens qui alimentent bénévolement, quasiment, en information locale, la Voix du Nord. Bon, le journalisme d'investigation, la Voix du Nord, je pense que on connaît pas beaucoup. Ou alors, il faut en sortir et puis écrire un bouquin sur la Voix du Nord, comme vous l'avez fait, Frédéric Épiné. Donc, mais je pense à ça parce que finalement, alors je sais que toi Jean, t'as pas encore eu le temps de lire tout le bouquin, mais quand on lit ce bouquin, on a l'impression que le journal qu'on a dans les mains à la Voix du Nord, que tout le monde connaît, c'est vraiment la partie apparente d'un iceberg, quoi. Et cet iceberg, avant tout, et d'ailleurs ça a été dit par un juge ou une juge hein, lors d'un procès, d'un jugement de la Voix du Nord, la Voix du Nord est bien plus une société commerciale de droit commun qu'une société éditrice de presse. Et quand on lit le livre de Frédéric Épiné, tous les problèmes que la Voix du Nord a rencontrés avec la justice, on va peut-être y revenir rapidement, et il y en a eu beaucoup, sont des problèmes liés à des questions d'action, enfin à des questions de financement, etc., mais jamais à des problèmes de presse. Hein, bon, il y a eu un moment, c'est le 14 janvier 2003, hein, vous insistez sur cette date, avec une première perquisition dans les locaux de la Voix du Nord. Bon, quand on se dit perquisition dans un journal, c'est pour aller chercher des documents hein, d'un journaliste, des photos, etc. Là, non, hein, c'est pour aller chercher les comptes, les bilans. Alors donc, Frédéric Épiné, j'aurais peut-être revenir sur cet aspect. Bon, ça a bien été dit par Nicolas, il y a deux périodes. Une première période dirigée d'ailleurs par René de Coq, enfin, les dirigeants historiques, hein, dans la suite de la création de la Voix du Nord, un dirigeant qui avait une certaine légitimité d'ailleurs, hein, puisque c'était aussi un résistant, donc qui a réussi à calmer les esprits. Mais au départ, la Voix du Nord, c'est des petits actionnaires. Enfin, c'était des anciens du réseau qui avaient des actions, et c'est parti de là. Et puis, c'est ça ?
Oui, des actionnaires, mais quand même triés sur le volet, quoi. Donc, effectivement, un grand nombre de petits porteurs. C'est un exemple, d'ailleurs, je pense, assez unique dans la presse française. Hein. Ils sont près de 2000 à peu près. Hein. Néanmoins, parmi eux, on va retrouver aussi des chefs d'entreprise, des avocats, des banquiers. Voilà quoi. Il y a pas que des petits. Ce qui fait que ce capital va être un peu éclaté, quoi. Mais derrière la figure du commandeur, hein, de ce patron historique de la Voix du Nord qui s'appelait René de Coq. Tout ira bien, quoi, jusqu'au jour de son décès, où les guerres financières évidemment vont reprendre du plus belle. Tout le monde va être calife à la place du calife.
Et notamment les petits actionnaires s'aperçoivent qu'on les a bernés sur le montant même, enfin sur la valeur même de leurs actions. Et c'est pour ça que certains dirigeants vont se faire des fortunes. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont racheter à petit prix des actions à des anciens du réseau Voix du Nord. Vont les stocker, vont les amasser pour les revendre dans les années 80 quand on passe à la deuxième période, une période marquée par l'argent, mais en faisant des... Enfin, je pense que le dernier grand patron, Pruvot, il fait des millions d'euros de bénéfices, enfin plusieurs millions si mes
souvenirs sont bons. Les ex-dirigeants, donc les derniers sont partis en juin 2005, hein, ont effectivement réalisé des plus-values assez invraisemblables grâce aux opérations financières qu'ils avaient pu mettre en place. Bon, évidemment, le but du jeu pour eux, c'était pas seulement de devenir multimillionnaire, mais de continuer à garder le pouvoir. Bon, Ils l'ont perdu. C'est d'autres maintenant qui ont pris la place. Hein. Je disais tout à l'heure, la Voix du Nord a changé 4 fois de main. Bon, en 99, c'est le groupe belge Rossel qui n'est qu'en fait que le phoné d'un autre grand groupe de presse qui s'appelle Soc Press. C'est l'ancienne entité du groupe de Robert Hersant. Rossel va céder la main à Soc Press en 2003. L'année suivante, c'est Serge Dassault qui va rafler la mise en faisant d'énormes chèques. Bon, et puis voilà, et 2005 à nouveau Rossel. Bon, moi j'ai achevé mon enquête avant la prise en main de Rossel. Néanmoins, j'avais présenté Rossel comme le candidat le plus sérieux. J'ai pas pu enquêter évidemment sur pourquoi ce retour de Rossel. Je crois qu'il y aurait pas mal d'informations à aller chercher. Bon, ce sera peut-être l'occasion d'un 18e chapitre parce qu'il y a encore évidemment beaucoup de choses qui se passent sur le plan financier à la Voix du Nord, mais aussi les vieilles affaires financières sont toujours en cours. Les anciens dirigeants de la Voix du Nord devraient se représenter sans doute d'ici quelques mois devant le tribunal correctionnel de Lille.
Alors, un dernier aspect sur ces questions de finances, on peut aussi, vous le signaler dans le bouquin, on peut aussi dire que la Voix du Nord, c'est le quotidien où la pub, hein, dans la part des revenus, est plus importante. Bon, par exemple, par rapport à Ouest France, qui est le premier quotidien régional, bah, y a plus de pubs qui rentrent dans la Voix du Nord qu'à Ouest France.
Ouais, tout à fait. Bon, la Voix du Nord est une pépite, c'est une entreprise assez juteuse. Je cite un chiffre, hein, qui est pas officiel, mais néanmoins tout à fait exact. J'explique que la rentabilité de la Voix du Nord et ses 297 000 exemplaires est 2 fois supérieure à celle de Ouest France qui vend plus de 700 000 exemplaires. Bon, tout ça est une question de territoire. Hein. Faut rappeler que le Nord-Pas-de-Calais compte 4 millions d'habitants et qu'on a dans notre région un réseau de grande distribution très très présent et énormément encore de grosses enseignes. Donc ça fonctionne assez bien de ce côté-là.
Alors avant de parler de votre maison d'édition Les Lumières de Lille, j'aimerais qu'on évoque ensemble les grands projets de la Voix du Nord, notamment cette histoire de nouveau format et de changement de locaux.
Ouais, alors bon, vous savez que quand tout va mal, et ben on change l'emballage, on refait une nouvelle formule. Hein. Vous avez entendu parler de tous ces journaux qui sont actuellement en train de changer de formule, de format. Alors c'est le cas de La Voix du Nord qui va sortir, et Nord Éclair évidemment, qui va adopter le format tabloïd à partir du printemps 2006. Bien, on va changer l'emballage, mais est-ce qu'on changera réellement le contenu? Eh bien, attendons de voir avant de juger, évidemment. Bon, je n'ai pas d'optimisme particulier sur le changement de contenu. Je sais que les cadres rédactionnels sont les mêmes depuis à peu près 15 ans. Rien ne bouge. J'ai peu d'espoir de ce côté-là. Mais bon, après tout, je fais pas de procès d'intention sur l'avenir à la Voix du Nord. En revanche, dans mon bouquin, je leur fais un réel procès sur leur mémoire défaillante, sur leurs mensonges, sur un certain nombre de leurs magouilles.
Alors on me fait signe en technique, il reste vraiment, vraiment pas beaucoup de temps, mais on va quand même juste dire un mot sur les éditions Les Lumières de Lille pour dire qu'il y a un site internet et puis peut-être des projets en cours.
Alors il y a un site internet qui s'appelle leslumièresdelille.com. Bon, c'est une maison d'édition qui sort son premier livre, le mien. Bon, mais évidemment, moi, je suis prêt.
C'est pas vous qui l'avez créé, la maison d'édition?
Oui. C'est ce que je viens de dire. Je sors le premier livre de la maison d'édition, c'est le mien. Et donc, je suis à la recherche en fait d'auteurs hein, qui ont le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire plutôt enquêteurs et qui ont envie de sortir des infos, qui soient évidemment très argumentés pour secouer un petit peu le cocotier dans le Nord-Pas-de-Calais où il y a beaucoup de choses à raconter. Et puis voilà quoi. Donc j'ai envie que les choses bougent. Bon.
On peut dire que le livre, on le trouve assez facilement dans les librairies de la région.
Oui, vous allez le trouver à Arras, évidemment, et puis dans les librairies de la région. Sinon, bah, via mon site, hein, un petit mail, j'envoie les adresses, il n'y a pas de problème.
Et puis à noter aussi quand même la préface de Daniel Carton, qui est aussi passé par la Voix du Nord, hein, qui est journaliste, écrivain.
Ouais, Daniel Carton, bah, qui est passé par la Voix, que j'ai rencontré après quand il avait écrit un bouquin qui a fait pas mal de bruit, c'est bien entendu C'est Off, hein, ce que les journalistes politiques ne racontent jamais. Voilà quoi, donc je lui ai proposé de lire mon manuscrit et puis éventuellement de me faire la préface. Il m'a fait une préface. Voilà.
En tout cas, merci Frédéric Lépinet d'avoir répondu à notre invitation. On précise à nouveau qu'on avait sollicité la Voix du Nord pour faire partie de cette discussion et que la Voix du Nord a décliné l'invitation.
Fin du journal de tumulte. Tumulte recevait donc Frédéric Lépinet, auteur du livre La Voix du Nord, histoire secrète. Et c'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 15h et à 23h30. Tumulte, c'est terminé. À la semaine prochaine. Tumulte, c'est bien terminé. Dans un instant, la suite de nos programmes. Vous allez retrouver Boris, rediffusion de son émission L'Absinthe. Bonne soirée.